Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Comment les Chinois perçoivent-ils les révoltes et les révolutions arabes depuis le début de l'année 2011 ? Quelles sont les conséquences qu'on peut aujourd'hui discerner de l'écho de ces révoltes en Chine ? Comment les Chinois voient-ils le monde arabe et les Arabes ? Pour notre deuxième rendez-vous régulier des nouvelles de la Chine avec l'académicienne et sinologue Marianne Bastide-Bruguière, c'est donc des Chinois et des révoltes arabes dont nous allons parler aujourd'hui dans cette émission. Nous enregistrons le 16 mars et il faut dire que l'actualité récente des catastrophes naturelles et nucléaires qui touchent le Japon font l'actualité et qu'elles ont fait passer au second plan l'actualité arabe. Peut-être en dirons-nous justement quelques mots dans l'émission. Marianne Bastide-Bruguière, revenons avec vous sur l'actualité chinoise des dernières semaines pour mieux en prendre la mesure. Merci de vous prêter à cet exercice d'histoire immédiate. Et avant de commencer, avant d'entrer dans le cœur du sujet, pouvez-vous nous dire quelle vision habituelle les Chinois ont-ils du monde arabe ?
Écoutez, ils n'en ont pas une vision très immédiate. Et puis, il faut distinguer selon les différentes composantes de la population chinoise. Il y a en Chine une importante minorité musulmane qui est composée d'une part de Chinois, ethniquement Chinois, des Han, qui sont musulmans. Cela correspond à une conversion à l'islam qui est très ancienne, qui date du 9e siècle, 10e siècle, par les marchands musulmans qui faisaient le commerce en Chine. Cette population Han musulmane est dispersée à travers tout le pays. Dans les vieilles 18 provinces chinoises, il y a des groupes importants à Pékin, à Tianjin, par exemple, mais il y en a aussi à Canton, il y en a le long de la côte, il y en a dans les régions rurales, au Henan, dans des villages avec des petites mosquées locales. Et il y en a des groupes importants qui se trouvent au Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, et évidemment dans la partie ouest de la Chine, au Gansu. Et puis, il y a d'autres groupes de musulmans qui, eux, ne sont pas d'ethnie chinoise, et en particulier les Ouïghours, qui sont turcs, et dont la majorité réside dans la province du Xinjiang. Mais il y a là également des Kazakhs, qui sont également musulmans, et même certains Mongols sont musulmans. Donc il y a des minorités religieuses, des minorités ethniques qui sont musulmanes. Et ces minorités ethniques musulmanes ont été agrégées à l'Empire chinois relativement récemment. Elles s'en sont échappées à certains moments. Enfin, elles n'ont commencé à être intégrées que depuis le XVIIIe siècle et avec des allées et venues fréquentes. Et elles ont posé récemment des problèmes graves de risque. Les Chinois prétendaient que c'était du séparatisme, de l'indépendantisme. Il y a effectivement des facteurs d'indépendance, mais enfin pas tous, et surtout des revendications d'un meilleur traitement, enfin d'une plus grande égalité. Et aussi des protestations contre le fait que, comme au Tibet, leur territoire a été envahi par des Chinois ethniquement chinois, des Han, comme une colonisation qu'ils ressentent très difficilement. Et en 2009, il y a eu des graves émeutes avec près de 200 morts au Xinjiang, beaucoup d'arrestations, un contrôle très très strict, policier très très strict, qui a duré près d'un an, qui semble-t-il maintenant est un peu moins dur, mais enfin ça a été difficile. Donc ces groupes de population musulmanes, évidemment, ont un intérêt pour les pays arabes et ont des relations aussi plus directes que les autres groupes de la population avec les Arabes. Je vous dirais, l'an dernier, je suis allée dans un endroit, une ville qui s'appelle Yangzhou, qui est située sur l'ancien Grand Canal et qui était célèbre par des groupes de marchands musulmans. Et il reste dans cette ville une mosquée qui est ancienne et une communauté musulmane. Et je suis allée voir la mosquée, j'ai discuté avec les gens de la mosquée, etc., qui étaient très, très prudents. Oh oui. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des photos de visiteurs récents et il y avait des visiteurs de tous les pays arabes, de tous les pays du Golfe, etc. Et j'ai posé la question de savoir si beaucoup de ces musulmans étaient allés en pèlerinage à la Mecque. Et il y avait régulièrement des pèlerinages. Enfin, si vous voulez, le pèlerinage à la Mecque est autorisé par le gouvernement chinois, pas vraiment organisé par lui, mais enfin au moins facilité pour les passeports ou les transports. Et donc, il y a un va-et-vient régulier dont il faut savoir qu'il existe, parce que c'est des couches de population qui ne sont pas en haut de la société, mais qui existent. Et de même, au Xinjiang, les relations commerciales avec les républiques voisines d'Asie centrale qui sont musulmanes, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, etc., Tadjikistan, sont régulières, ont été augmentées même. Le gouvernement chinois mène une politique de coopération avec ces pays extrêmement active, politique qu'il a renforcée ces derniers temps, parce que beaucoup de ces pays sont plutôt des autocraties assez remarquables, voire des États un peu voyous. Et donc, pour éviter que ces pays ne se déstabilisent et qu'on se trouve devant des révolutions de jasmin là, dans toute l'Asie centrale, le gouvernement chinois déverse de l'argent. Enfin, il donne des contrats, il promet de l'argent, il fait des prêts, etc. Il a encore augmenté. Et là, tout récemment, il vient de signer un énorme contrat qui doit, pour la construction d'un chemin de fer, qui ira d'Iran au Xinjiang, à travers l'Afghanistan et quelques autres républiques d'Asie centrale. C'est une chose absolument énorme. Donc là, il y a une politique, on caresse les gens, on essaie de les calmer. Donc il y a ces rapports spéciaux avec les pays musulmans qui s'étendent aussi avec la Turquie, puisqu'il y a des populations turques. Et les Turcs se sont intéressés au sort des Turcs chinois. Donc il y a tout un réseau de relations là. Dans le reste de la population, il y a les experts du monde arabe, ils ont de très bons connaisseurs du monde arabe, des gens qui sont d'excellents philologues, historiens, archéologues, etc. Ça existe. Enfin, ce n'est pas dans la culture quotidienne du chinois moyen, beaucoup moins que l'est le cinéma américain. Ça, il n'y a aucun doute.
Y a-t-il une perception de l'arabisme ? Vous parliez des musulmans, là.
Du panarabisme.
Du panarabisme.
Oui.
Est-ce que vous évoquiez votre voyage, là, tout à l'heure, vos relations avec les gens.
Non, les gens étaient extrêmement, ces gens de la mosquée, étaient extrêmement prudents sur les questions politiques. Mais le panarabisme est une notion qui a été répétée parce que toutes les fois qu'il y a des révoltes au Xinjiang, on dit « ça y est, c'est le panarabisme ».
D'accord, parce que c'est intéressant.
Le panislamisme, ou le fondamentalisme islamique. D'autre part, le gouvernement chinois a tout à fait adopté l'attitude américaine pendant un certain temps sur le terrorisme islamique et la lutte contre Al-Qaïda. Le gouvernement est extrêmement sensible aux menaces qui viennent de ce côté-là. Bien qu'il ait de très très bons rapports avec le Pakistan, mais en fait, ça fait partie de la politique islamique, et qu'ils ne disent rien contre le gouvernement pakistanais et la manière dont le gouvernement pakistanais se comporte par rapport aux partisans d'Al-Qaïda sur le territoire du Pakistan. Il y a beaucoup de prudence. Le réseau de renseignements chinois sur toutes ces questions est certainement très important. Par exemple, en Jordanie, ils ont beaucoup de gens. Ils envoient régulièrement des étudiants dans les universités du monde arabe qui ne font probablement pas que des études sur le Coran. Et le personnel chinois dans les pays du Proche-Orient a beaucoup augmenté. Les ambassades sont très importantes. Mais ça s'explique aussi par le fait que les rapports commerciaux, les rapports économiques avec ces différents pays se sont énormément développés. Oui. Et par exemple, en Libye, Libye a 5 millions d'habitants, il y avait 38 000 Chinois qui travaillaient. 75 entreprises.
C'est énorme.
50 projets en cours, dont plus de la moitié ont été dévastés par la population libyenne. On ne sait pas très bien si ce sont les partisans de Kadhafi ou d'autres. Enfin, en tout cas, les Chinois sont partis en catastrophe et ils ont raconté qu'ils avaient été aussi dépouillés sur le chemin de toutes leurs économies, etc. Et donc, il y a une implantation très forte en Égypte également. Et l'implantation en Égypte est très ancienne. Et dans tous les pays du Golfe. Et en particulier, il y a maintenant des entreprises chinoises qui sont spécialisées dans la recherche offshore de pétrole. Et elles ont de gros investissements, de gros marchés, là. Donc, la stabilité de cette région est importante pour le développement des entreprises chinoises. Et ces entreprises qui font de la construction des équipements pétroliers, elles croissaient, enfin, leur profit croissait de plus de 10% par an ces derniers temps. Donc, le gouvernement chinois a intérêt à ce que la situation se stabilise, n'a pas intérêt au chaos du tout.
Oui. Il y a des enjeux aussi économiques aussi importants, par exemple pour l'Égypte, où la Libye
en Égypte,
concentre, une forte minorité chinoise.
En Libye, il y a d'une part le pétrole, parce qu'il y a une grosse compagnie pétrolière chinoise qui est là et qui achète une bonne partie du pétrole libyen. Et visiblement, le colonel Kadhafi compte que même si les Européens et les Américains ont mis l'embargo sur le commerce avec la Libye, les Chinois
vont le détourner.
Absorberont très volontiers le pétrole. Les Chinois ont quand même pris des positions contre Kadhafi, puisqu'ils ont accepté dans la résolution des Nations Unies que la Cour pénale internationale se mêle de l'affaire. Mais ils ont laissé leur personnel sur place, ils n'ont pas rompu les relations diplomatiques. Ils ont encore beaucoup de monde dans leur ambassade, il y avait beaucoup de monde, parce qu'ils sont arrivés en 10 jours à évacuer leurs 38 000 ressortissants. C'est quand même remarquable. Et non seulement leurs 38 000 ressortissants, mais ils ont prêté main forte à 5 000 Vietnamiens qui étaient là. Au Népalais, il y avait plusieurs milliers de Népalais. Et au Bangladeshi, dont personne ne s'occupait, ce n'est pas les Américains qui allaient ramasser les Bangladeshis. Donc, ils ont été capables de faire un énorme effort pour leur rapatriement dans des conditions quand même compliquées. Donc, ils ont certainement, sur place, beaucoup de monde à l'ambassade et qui n'ont pas rapatrié.
Donc, ils sont encore sur place et qui vont rester.
Oui, oui.
Ça révèle une démonstration de force, de solidarité, une démonstration politique aussi de leader.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces rapatriements ont été faits très astucieusement. Les Chinois sont admirables pour ça. En louant des bateaux grecs, et ça, ils n'avaient pas peine, comme ils possèdent maintenant le port de Pirée, et probablement une grande partie de l'armement grec, ils ont fait venir des bateaux grecs, des bateaux maltais. Ils ont donc évacué les gens vers la Crète, et de là, ils ont été expédiés en Chine ou vers Malte. Il y en a certains qui ont été évacués vers la Tunisie, mais ils ont envoyé aussi des avions militaires en Libye, et pour ça, il fallait qu'ils aient l'autorisation d'atterrir, qu'ils ont ensuite fait transiter par le Soudan, par Khartoum, avec lesquels ils ont de très bons rapports. Donc, ça montre qu'ils sont bien implantés dans la région et qu'ils peuvent faire beaucoup dans la région. Et dès que les Américains ont annoncé qu'ils envoyaient leur porte-avions devant les côtes de Libye, les Chinois, par miracle, avaient de la flotte de guerre sur les côtes des Somalis pour faire la chasse aux pirates. Ils les ont illico envoyés à travers la mer Rouge, le canal de Suez, pour aller se poster également devant les côtes de Libye. Donc, ils ont des bateaux de guerre en Méditerranée.
D'accord, je ne savais pas.
Non, ils ne laissent aucun espace vide.
Pourtant, c'est loin de leur
base.
Oui,
mais ça veut dire, si vous voulez, la flotte de guerre chinoise en Méditerranée, c'est quand même une nouveauté.
Oui, voilà, c'était ma question. Il y a longtemps qu'ils sont présents, parce que...
Ils sont arrivés là le 2 mars, dès que les Américains y étaient, hop.
Ils ont traversé le canal.
Si vous voulez, la flotte n'attendait pas sur la côte des Somalis l'occasion d'aller dans le rivage des Sirtes.
Oui.
Non, c'est quand même pas à ce point. Mais ils ont de la flotte maintenant dans tout l'océan Indien et dans le golfe d'Oman et dans le golfe d'Aden. Ils peuvent la faire bouger très vite. Et ils ont...
La preuve.
Oui.
Voilà. Marianne Bastide-Bruguière, comment ont été perçues en Chine les révoltes et les révolutions des pays arabes de ces derniers mois ?
Dans la presse occidentale, on ne s'est pas du tout occupé de savoir comment les Chinois percevaient les choses pendant le temps de la révolution du jasmin en Tunisie, ça paraissait. En réalité, on a commencé à faire attention à partir de l'Égypte.
Oui.
Pourquoi ? Parce que les journalistes occidentaux à Pékin ont remarqué que les informations étaient filtrées dans la presse chinoise et que d'autre part, sur le blog, qui est quand même le grand moyen de communication en Chine, il y avait très, très peu de commentaires que, visiblement, on les supprimait. Bon. Donc, aussitôt, on s'est dit, les Chinois craignent la contagion. En réalité, l'information sur l'Égypte a été importante dans les médias chinois. Il y a eu beaucoup d'images. Et je dois dire que souvent, il y avait même d'informations plus intéressantes que ce que j'ai vu dans les médias français. Et j'ai appris des choses par les Chinois que je ne savais pas par les Français. Sur l'Internet chinois, également beaucoup d'informations. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait peu de commentaires. Cela dit, il y avait quand même des commentaires, parce qu'il y avait des articles. Et ces articles recevaient des commentaires du public, souvent sarcastiques, ou bien à double entente. Par exemple, il y avait des articles qui étaient produits sur la corruption dans les milieux égyptiens, etc.
Ah oui, un problème qui touche beaucoup la Chine.
Alors, il y avait des commentaires, et dans d'autres pays, point d'interrogation. Quand on disait que la famille de Moubarak s'était très bien servie, il y avait des commentaires, c'est la tradition des pays féodaux. Ou bien, enfin bon, je voulais, c'était clair. Et donc, on ne peut pas dire que tout était bloqué. Il y avait des commentaires sarcastiques, mais c'est vrai qu'il y en avait moins que normalement on aurait pu s'y attendre. Donc c'est certain qu'il y a une censure. La censure et les mesures policières ont été réelles, parce que depuis la fin février, depuis le 25 février, il y a eu des arrestations de militants des droits de l'homme. On en connaît au moins pour une douzaine, dont beaucoup, plusieurs avaient été des militants étudiants dans le mouvement du 4 juin 1989, qui ont été arrêtés avec inculpation de subversion de l'État. Donc ça veut dire qu'ils vont être jugés, ils sont en prison. Et à la suite des dimanches de rassemblement,
oui, alors sur ces manifestations hebdomadaires,
il y a eu également des arrestations. Et là, on sait beaucoup moins qui a été arrêté et pour combien de temps, s'ils sont sortis ou non. Mais il y a un contrôle policier énorme. Alors, pour ces manifestations, n'est-ce pas, des messages, ça a commencé le 21 février, des messages ont été lancés, des appels sur le blog, disant de se rassembler. D'abord, la première fois, c'était dans une dizaine de villes. Et le résultat a été visible à Pékin et à Shanghai, surtout. De se rassembler dans des lieux bien connus. À Pékin, c'est les Champs-Élysées de Pékin, c'est Wang Fuqing, dans des fast-food. Simplement d'aller déjeuner dans le fast-food, si vous voulez, à Shanghai, dans la rue de Nankin, et que ce soit, au fond, des sortes de manifestations pacifiques. L'origine de ces appels, elle n'est pas claire du tout.
Ah, on ne sait pas
trop.
Non,
on ne sait pas qui c'est vraiment. Oui. Peut-être que la police chinoise le sait, mais ce n'est pas sûr. Bon, elle a arrêté les militants des droits de l'homme parce qu'ils avaient envoyé des blogs. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. C'est probable, mais bon. Mais il y a d'autres appels, parce que ces appels ont continué, même une fois, les militants en prison. Et on s'est demandé si c'était le Falun Gong, le groupe religieux qui a été très, très maltraité il y a déjà quelques années. Le Falun Gong a dit que non, qu'il n'y était pour rien. Et donc, c'est des anonymes, et on n'a pas l'impression que ça représente un réseau, vraiment. On a l'impression que plutôt c'est des gens qui le font à titre individuel. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Et ce qui est sûr, c'est que les autorités chinoises ont paniqué et qu'elles ont déployé une police absolument extraordinaire, des policiers en civil, des policiers en uniforme, énorme, pour finalement se trouver devant assez peu de manifestants et même en nombre décroissant. Si vous voulez, le nombre de gens qui se sont rassemblés, c'est de l'ordre de centaines, pas de milliers. Donc, c'est limité. Et il y a eu beaucoup de journalistes étrangers. Et il y a eu notamment l'ambassadeur des États-Unis, Huntsman, qui est venu le 27 février. Ce que les autorités chinoises ont trouvé vraiment scandaleux. Et ce que, apparemment, le public chinois a trouvé scandaleux aussi. Parce que des journalistes de Hong Kong, par exemple, ont raconté qu'il y avait des Chinois dans la rue qui avaient dit à Huntsman « Ah ben, on voit bien que les États-Unis veulent le chaos en Chine. » Donc, ce n'est pas étonnant. C'est pour des Chinois de la rue, c'est la preuve que le gouvernement a raison, que les États-Unis veulent mettre la pagaille en Chine. Donc, c'est contre-productif, je dirais. Bon, ce n'est sûrement pas l'opinion de tous les Chinois éclairés, mais ça veut dire que dans la population, ça prend. Ça n'a pas forcément une... Donc, il y a eu des journalistes étrangers qui ont été arrêtés, libérés, etc. Il y a eu des protestations et tout. Mais dans le public chinois, ça n'a pas soulevé une vague, une grande vague. Et apparemment, beaucoup de gens ont trouvé que ça n'était pas un moyen efficace, que ça servait à rien, que ça voulait dire qu'on était simplement mis au trou et que ça ne ferait sûrement pas changer le gouvernement. Au contraire, ça lui donnait des armes contre la contestation démocratique. En revanche, ce que les événements dans les pays arabes ont certainement favorisé, c'est l'énorme intérêt des Chinois pour leur Assemblée nationale. Cette Assemblée populaire nationale a une session annuelle.
Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire que devant...
ils ont pris d'autres voies.
Voilà, de façon pragmatique, le Chinois de la rue comprend que ce n'est pas le meilleur moyen de se faire entendre, mais que les structures, les institutions habituelles qui vont se réunir prochainement et qui se sont réunies avec cette session annuelle, là, c'est peut-être le moyen de se faire entendre ou de dialoguer, peut-être. Racontez-nous.
Non, ce n'est pas qu'ils mettent leur confiance dans cette Assemblée populaire nationale.
Mais ils vont pouvoir décrypter des choses, peut-être.
Mais le gouvernement chinois a voulu donner une extraordinaire publicité à cette réunion, plus que d'habitude. Ils en donnent beaucoup d'habitude. Mais il y en avait encore plus que d'habitude. Ils en ont rajouté pour montrer que c'était vraiment populaire, qu'il y avait une représentation, que cette représentation a été élue. Bon, ça fait rire les Chinois parce que c'est une élection à tellement de degrés qu'ils n'ont plus, et sur des listes tellement bien constituées qu'ils n'ont guère de voix au chapitre. Mais, si je puis dire, la voix du peuple s'est prise au jeu et a, au fond, essayé d'interpeller ses députés en leur disant vous prétendez être député, vous faites-vous vraiment votre travail ? Et je vous donne un exemple, on a publié le rapport sur le travail législatif de l'Assemblée qui est fait par le président de l'Assemblée, qui s'appelle Wu Bangguo. Et il y a eu sur une des chaînes, enfin sur un des sites des portails d'information, 460 000 interventions
d'internautes
sur ce discours. La chaîne l'a reconnu parce qu'elle a un compteur.
C'est un événement.
Donc 460 000. Ils n'en ont publié que 130. Bon, c'est dire qu'ils ont vraiment fait un tri. Sur d'autres portails, parce qu'il y a beaucoup de portails, il y avait pas autant que 460 000, 160 000 sur un autre. Ils n'en ont publié que 5 000. Mais donc, et quand même dans ces 5 000, il y avait des interventions très audacieuses en disant « vous ne faites pas votre travail, vous ne protégez pas assez le peuple ». Donc, ça veut dire qu'ils ont saisi cette ouverture faite par le pouvoir pour parler. Et le gouvernement avait le pressentiment qu'il y aurait des problèmes. Parce qu'avant la session, le Premier ministre, Wen Jiabao, a fait quelque chose qui était tout à fait inédit. Il a répondu pendant 2 heures, directement sur Internet, aux interrogations des internautes. Il y a eu... Là aussi, plus de 400 000 questions, il en a retenu 20. Mais il n'a pas retenu de questions qui posaient le problème de la démocratisation des institutions. Mais il a retenu des questions qui étaient quand même très sensibles, comme le niveau de vie, la hausse des prix, le logement, l'expropriation des terres et des immeubles manu militari pour des spéculations, et puis la question de la justice, la défense des droits des individus. Et il a tenu des propos très francs en reconnaissant les erreurs du gouvernement et en disant qu'il fallait y remédier. Et on a lancé aussi un nouveau mot d'ordre qui est maintenant non plus « enrichissez-vous, prospérité, etc. », mais le bonheur du peuple.
Voilà, ça c'est ce qui a filtré dans notre presse. Alors, à nous.
Mais si vous voulez, la prestation de Wen Jiabao, elle a été bien accueillie par un certain nombre de gens. Mais il y a d'autres gens qui ont dit « oh ben oui, mais encore de la pommade ». C'était à peu près ça. Mais ils l'ont dit et ça a été publié sur les blogs. Donc, finalement, il y a quelque chose qui est en marche. Et une des tâches principales de l'Assemblée nationale, c'était de ratifier le 12e plan quinquennal.
Ah, ça, c'est les grandes orientations pour 5 ans.
Oui, c'est les grandes orientations.
Ans,
alors, ce 12e plan quinquennal avait été préparé bien avant les révoltes arabes. Donc, on ne peut pas dire que c'est les révoltes arabes qui ont fait le contenu, parce que ça suppose toutes sortes de calculs, etc. Et il était prévu déjà avant, parce qu'il y avait eu des ouvertures sur ce que ça contiendrait, l'idée de réorienter le développement de manière à ce que les fruits de la croissance soient plus justement partagés. Ça n'est pas une question de charité publique, c'est une question aussi d'économie, parce qu'il faut relever le niveau de la consommation intérieure à cause de la crise et aussi pour réguler les choses, également pour essayer de calmer l'agitation qui ne fait que monter. Mais pendant la session et dans la publicité qu'on a donnée à la session, on a beaucoup augmenté, si vous voulez, on a mis l'accent sur la protection sociale, l'augmentation des retraites. Il doit y avoir 13% par an d'augmentation des salaires.
C'est énorme. Hein,
ce qui est quand même énorme, ça fait rêver. Mais comme il y a aussi une inflation qui actuellement est à 5%,
il faut pouvoir la compenser.
Ça n'est pas complètement sans compensation. Et sur un certain nombre de points, si vous voulez, on a même ajouté à ce qui était prévu. Cela dit, le public chinois ne s'est pas non plus laissé abuser complètement parce que dans les augmentations générales, le budget de la police a été augmenté de 15% et celui de l'armée aussi. Donc, chacun sait à quoi s'en tenir. Les règles du jeu sont bien établies. Mais, si vous voulez, il y a malgré tout une sorte de dialogue, pas un dialogue extraordinairement démocratique, mais enfin, un dialogue quand même qui existe.
Une sorte de cahier de doléances à la moderne,
oui, le, à Internet. Le cahier de doléances fonctionne. Et d'autre part, si vous voulez, le ton de Wen Jiabao, le Premier ministre, c'est un ton populiste. Alors, il y a des gens qui disent que c'est démagogique. Je dirais que c'est populiste comme genre. Et les Chinois le ressentent comme ça. Il y a un mot chinois très spécial qui désigne le populisme, qui est un peu différent du mot français, qui dit qu'on essaie que tout le peuple soit à égalité. Et ça veut dire aussi qu'on s'occupe des gens du commun, des gens ordinaires, pas simplement de l'élite. C'est un mot qui est très riche en chinois.
Comment il se dit
ça? Ça se dit pingmin. Et le populisme, enfin le mot chinois qui est traduit, c'est pingmin zhuyi. Donc c'est s'occuper du peuple ordinaire et c'est en même temps essayer d'aplanir les différences entre l'élite ou le haut et le bas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les rassemblements du dimanche, là, dont on a parlé tout à l'heure, dans certains endroits, au Sichuan par exemple, les gens sont venus en chantant des chansons de l'époque de Mao Zedong.
Ah, c'est extraordinaire.
Des refrains de l'époque de Mao Zedong, des jeunes. Refrains qui sont à la mode, si vous voulez, c'est du rétro, c'est oui, la vague rétro. Mais en même temps, ça a un sens très fort, parce que c'était des chansons qui exaltaient le peuple et l'égalité du peuple et le bien-être du peuple, etc. Donc, c'est en réalité une attaque contre le pouvoir actuel.
En chanson, mais bien.
C'est des chansons retournées, si vous voulez.
Très utilisées, en fait. Quelle est la position en général du pouvoir chinois, on s'en doute, mais à l'égard de toute révolte, de tout mouvement, de toute mobilisation?
La terreur, c'est que le mouvement soit organisé réellement et organisé à l'échelle nationale. Et dans les arrestations, on a pris des gens qui sont les uns à Harbin dans le nord-est, les autres à Canton, les autres au Sichuan, etc. Il y en a partout.
D'accord.
Parce qu'on craint que ces gens s'organisent, qui, dans un sens vrai, ils sont en liaison les uns avec les autres. Mais sont-ils en mesure de mobiliser vraiment, d'organiser, ça c'est autre chose. Parce que ce sont plutôt des idéalistes. Ils n'ont pas des moyens vraiment d'organiser. Mais la terreur du pouvoir, c'est ça. Et quand il y a, et il y en a fréquemment, des mouvements locaux, où il peut y avoir 10 000, 20 000, 30 000 manifestants.
Mort. Non.
Non, pas morts, non, pas encore. Bon, on a quelquefois de plus en plus de mal à retenir. Mais on sait comment s'en débrouiller, enfin on les persuade, on use à la fois la corde et le bâton. Hein. Si c'est simultanément en beaucoup d'endroits, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est la terreur. Hein. Et aussi, la terreur, ce sont les actes de type action directe.
Hein. Actes terroristes,
oui,
ça c'est la grande
oui,
crainte
et
des
puis,
autorités.
Et puis le suicide en public, alors ce serait épouvantable, parce que le suicide a une signification politique extrêmement forte en Chine.
Alors comment a été interprétée l'immolation justement du Tunisien? Parce que ça c'est un acte très fort pour nous, ça
oui,
a été compris comme
oui,
tel, alors là-bas.
Si vous voulez, il n'y a pas eu... parce que les blogs étaient bloqués, beaucoup de commentaires individuels. Hein. Mais dans des articles, en revanche, dans la presse chinoise, dans les journaux, dans les revues, et aussi sur Internet, il y a eu beaucoup d'articles hein, par des gens qui sont experts, ou qui sont universitaires, qui sont journalistes,
Sur cette immolation.
Pas sur cette immolation, mais sur les affaires du monde arabe, de Libye, d'Égypte, etc. D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles. Évidemment, on évoque cette question-là. Et là, si vous voulez, les commentaires ont mis en évidence et ont souligné le fait qu'il y a un chômage massif des jeunes et des jeunes éduqués.
Donc ça, ce sont les thèmes auxquels les médias chinois se sont intéressés dans les révoltes arabes.
Oui.
Les questions du chômage
oui,
et des jeunes.
Le chômage des jeunes,
éduqués.
Et des jeunes diplômés.
Ouais.
Et ça, le chômage des jeunes diplômés, la protestation contre la corruption des dirigeants.
Deuxième thème.
Oui. Contre la mauvaise administration. Tout ça sont des thèmes qui ont été très
suivis,
Très suivis. Et le fait aussi qu'en Égypte, par exemple, il y avait un développement économique indéniable, enfin des progrès économiques indéniables, mais que ces progrès économiques ne profitaient pas à la large majorité de la population. Donc, c'est l'inégalité des retombées du développement économique.
Et ça, c'est un angle.
L'accaparement.
Qui a été...
Et tout ça, c'est à double entente, parce que ce sont exactement les mêmes thèmes qui alimentent la protestation en Chine. Il y a eu, avant l'Assemblée nationale, des sondages faits dans l'opinion chinoise, mais par les médias chinois,
Oui.
sur les thèmes principaux qui préoccupaient l'opinion publique. Et c'était ça, la protection sociale, l'inégalité des revenus, l'injustice, la corruption.
Est-ce qu'il y a-t-il l'idée, ou est-ce que ça transparaît dans les blogs ou dans les articles produits par les journalistes, est-ce que l'idée d'une remise en cause du pouvoir autoritaire ou de l'autocratie apparaît,
sort, pointe? Si, parce que vous voyez... Même dans des journaux dont on sait qu'ils ont des attaches officielles, qui ne sont pas du tout des samizdats, qui ne sont pas des journaux de dissidents, des journaux qui ont pignon sur rue, il y a eu, pas plus tard qu'il y a une semaine, des articles, des éditoriaux même, disant que c'était complètement ridicule d'empêcher les blogs, d'empêcher les gens de formuler leur opinion, que ça ne faisait qu'empirer les choses, que... Il n'y avait pas d'inconvénient à écouter des opinions critiques et que c'était bien parce qu'on avait empêché cela qu'on avait des révolutions ailleurs. Et que le déploiement de police aussi était complètement ridicule et disproportionné aux besoins réels. Donc cela veut dire qu'à l'intérieur du gouvernement, il y a des gens qui considèrent qu'on fait erreur, enfin qu'on fait des bêtises. Et qu'on ne devrait pas agir de cette façon-là par rapport aux revendications. Et bon, d'un côté, on peut mettre en avant le fait que ces militants ont été mis en prison et qu'ils vont avoir des procès, qu'ils vont avoir de nouveau des condamnations certainement très lourdes, mais que par ailleurs, il y a aussi l'idée qu'il faut
faire bouger les
choses, gérer autrement les choses et qu'on peut faire bouger les choses. Donc, c'est intéressant. Les Arabes travaillent pour les Chinois. Et si vous voulez, il y a beaucoup, beaucoup d'articles très intéressants qui évaluent les chances de réussite. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces articles sont assez optimistes en disant « Oui, ils sont sur la bonne voie, on ne reviendra jamais en arrière dans les pays où ça s'est fait. »
Donc ça, c'est la perception positive.
C'est une perception positive, mais ils disent « Ce n'est pas du tout une occidentalisation.
Ah, ça, c'est intéressant.
Les Américains se trompent complètement. Là, Obama fait des sourires en disant qu'il est pour la liberté, etc. D'ailleurs, ce n'est pas vrai du tout. Les Américains ne pensent qu'à leur intérêt. Et la démocratie dans ces pays-là, ça sera difficile, ça va compliquer la situation énormément. Une situation qui est déjà très, très complexe, disent-ils. Mais ça sera une démocratie qui sera appuyée sur la religion. Et le facteur religieux restera. Et c'est ça...
C'est la perception,
qui,
là.
Oui, oui, c'est la perception. Et c'est ça qui fera que ça ne sera jamais à la botte des Américains. Et que même les Américains perdent du terrain. L'idée, c'est que l'Union européenne est hors jeu complètement, qu'elle est incapable d'agir parce qu'elle n'est pas unie, enfin, que c'est un facteur absolument négligeable. Et alors, le problème qui se pose, que se posent les Chinois, mais si vous voulez, c'est des individus chinois, c'est des journalistes, des intellectuels, des commentateurs, et même des gens qui sont probablement chez eux et qui s'intéressent à ces questions. C'est comment la Chine doit-elle réagir? Et ce que je trouve très frappant, c'est que il y a un petit nombre de gens qui disent « Oh là là, c'est très compliqué, on a déjà beaucoup de problèmes internes, il vaut mieux ne pas s'en mêler, rester à distance, garder l'idée que chaque pays est souverain, qu'ils font ce qu'ils veulent, etc. et tout, mais ne pas être trop actif. » Et en revanche, beaucoup pensent que la Chine doit jouer un rôle, doit occuper le terrain.
Mais ça, c'est habituel dans la stratégie chinoise ou pas ?
Non,
c'est nouveau.
Si vous voulez, il y a un débat qui est en cours déjà depuis plusieurs années pour savoir si la Chine doit abandonner le profil bas qu'avait recommandé Deng Xiaoping. C'est-à-dire, on est des bons élèves, mais enfin, on ne se montre pas trop. Ou si, au contraire, elle doit être plus active et prendre l'initiative dans un certain nombre de domaines. Alors, pour ce qui concerne la région Asie-Pacifique, il n'y a pas de doute. Deng Xiaoping déjà l'avait dit. Hein, et c'est de plus en plus le cas. Mais la question se pose pour les autres régions du monde. Et là, le monde arabe, c'est quand même spécial. Hein. Et là, il y a quand même beaucoup de commentateurs qui disent qu'il faut intervenir davantage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que certains disent « Jusqu'à présent, notre action dans le monde, même quand on intervient, elle est toujours focalisée sur la relation avec les États-Unis. C'est-à-dire, les États-Unis font telle chose, on fait avec eux ou on fait différemment d'eux, etc. » Et ils disent « Là, il faut bien voir que les États-Unis sont mis hors course. Ils ont perdu la face, ils ont perdu leurs alliés. Ils sont pieds et poings liés dans leur intervention en Afghanistan. » Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas intervenir militairement. Et ils ont parfaitement vu que les États-Unis, qui avaient commencé par dire « il faut la no-fly zone », la zone d'exclusion aérienne, ont fait machine arrière quand Gates, le secrétaire d'État à la Défense, a dit « bon, c'est très joli, mais ça suppose beaucoup de moyens, il faut décider si on met les moyens là ou non hein ». Et ils ont fait machine arrière, hein, parce que si ça n'avait pas été mis en place, c'est bien parce qu'ils ne veulent pas. C'est pas seulement parce que les Russes et les Chinois n'y sont pas très favorables. Ça a aussi d'autres raisons. S'ils l'avaient voulu, ça serait fait. Et les Chinois ont parfaitement vu. Ils considèrent donc que les Américains sont hors course et que surtout, il ne faut pas décider de la politique chinoise dans cette région en fonction des États-Unis. Et leur idée, c'est qu'il faut se trouver des nouveaux alliés.
Mais alors, qui ça sera ?
Il faut des nouveaux alliés, la Turquie.
Alors, la Turquie plutôt que l'Union européenne ?
Là, l'Union terrible. Européenne, ils considèrent que ce n'est pas sûr, si vous voulez, qu'elle est trop molle. C'est des alliés dans la région et ils continuent à courtiser l'Iran, l'Irak. C'est des alliés dans la région et même, j'ai trouvé un article assez extraordinaire qui dit « La Chine a plein d'argent, elle a un fonds souverain qui est plein d'argent. Il faut mettre en œuvre un plan Marshall pour aider ces pays qui passent à la démocratie parce qu'ils vont avoir des difficultés économiques. Et on peut là
nouer
des liens tout à fait spécifiques.
Partenaires.
Mais par derrière, bien entendu, il y a des intérêts économiques chinois, parce qu'ils ont besoin du pétrole. Pensez que, comme réserve pétrolière, ils n'ont que 10 jours de consommation. Hein. Donc, si l'alimentation s'arrête... Bon, bien sûr, ça vient de plusieurs endroits. Ils en ont de Russie, ils en ont d'Iran, ils en ont du Golfe, ils en ont de Libye et de Soudan. Et puis d'Afrique aussi, de Guinée et autres. Mais si les approvisionnements s'arrêtent, c'est quand même ennuyeux. Donc il faut sécuriser les approvisionnements. Et d'autre part, leurs entreprises ont des intérêts considérables dans la région qui veulent affermir. Ils ont aussi des idées sur le développement de l'Afrique. Et à la fois de l'Afrique au nord du Sahara et de l'Afrique au sud du Sahara. Donc, il y a là des perspectives très vastes et qui, à mon sens, correspondent à des réflexions et des débats au sommet du gouvernement chinois sur l'orientation de la politique extérieure.
Alors, Marianne Bastide-Bruguière, pour essayer de conclure sur ce sujet sur
qui n'est pas terminé,
qui est en suspens, qui continue. D'après ce que je comprends, vous nous faites part de véritables changements internes au sein même des autorités chinoises dans cette perception de la façon dans la position de la Chine à venir, que ce soit au Moyen-Orient, dans les pays arabes, dans le monde. Vous avez parlé de la prise en compte du facteur religieux comme très important à la fois dans leur analyse et puis dans leur peut-être position future, dans leur action et dans leur politique future. Est-ce que le facteur de plus de libéralisme, plus de commerce, est aussi une façon de faire bouger les lignes ?
Si vous voulez, la question de la liberté du commerce, elle n'est pas posée parce qu'elle existe. C'est un donné pour eux. Pour eux, c'est un donné. Pour eux, tous ces pays ont besoin du commerce.
D'accord.
Et donc, ça continuera. Et comme la Chine a de l'argent, elle n'a aucun souci à se faire.
Et si j'ai bien compris, comme il faut occuper le terrain, c'est une façon de continuer cette grande tradition commerciale asiatique, chinoise en particulier. Mais est-ce que les Chinois lient libéralisme et démocratie dans leur analyse ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, donc, pas du tout.
Parce que c'est justement ça que vous nous avez montré tout à l'heure en parant de facteurs religieux. Voilà.
C'est alors deux domaines différents.
Est-ce que nous n'avons pas tendance à lier toujours l'un et l'autre ?
Si, parce que, enfin, nous, pas tous, mais certains croient que le développement des échanges, la liberté du commerce engendre inévitablement le développement de la démocratie. Dans l'analyse des Chinois, c'est pas ça.
Oui.
Et même ils disent que les Américains se trompent, croient que c'est ça, ou font semblant de croire que c'est ça, ou font de la propagande là-dessus. Mais qu'en réalité, ce n'est pas ça du tout. Ce qui a déclenché le mouvement démocratique, la protestation, c'est le fait qu'il y avait du chômage et que les gens n'avaient pas de travail.
Et c'était la première préoccupation des articles dont vous nous avez parlé.
Oui, et ce n'est pas du tout la propagande américaine ou l'idéal américain de démocratie. Ils considèrent que ça n'a rien à voir. Que ça vient des besoins intrinsèques
d'une société,
d'un
collectif,
et que d'autre part, mais c'est là où quand même ils sont un peu idéalistes. D'autre part, le régime autocratique n'est pas une bonne chose. Il faut un gouvernement éclairé. Et quand les autocrates, les despotes exagèrent, c'est bien de les renverser. Et même si vous voulez, même les démocrates chinois. Bon, il y en a qui sont de l'école américaine du libéralisme, qui lient commerce et démocratie, mais beaucoup estiment qu'il n'y a pas un lien obligatoire entre les deux. Ce n'est pas déterminé, que les hommes, au fond, se déterminent par d'autres choses. Savoir si leurs besoins fondamentaux sont satisfaits et si leurs aspirations légitimes, leur dignité est reconnue ou non. Et c'est là, c'est la question de la dignité aussi. Et c'est très associé à ce qu'eux-mêmes ressentent. Ce qui leur paraît important, c'est l'aspiration à la liberté et à la justice. C'est la liberté et la justice. Beaucoup plus que l'exercice direct du pouvoir. Ils veulent pouvoir interpeller le pouvoir, dire ce qu'ils ont sur le cœur, contrôler le pouvoir éventuellement, pas forcément l'exercer directement. Mais le pouvoir doit être responsable et doit rendre des comptes. C'est ça qui paraît important et c'est là où il y a une satisfaction de voir que ces populations arabes demandaient à leurs dirigeants de rendre des comptes. Il y a une solidarité, si vous voulez, une solidarité de peuples démunis.
Merci beaucoup, Marianne Bastide-Bruguière, de votre éclairage sur l'histoire immédiate et l'actualité de la Chine. À bientôt pour un nouveau rendez-vous des nouvelles de la Chine sur Canal Académie. Je rappelle simplement aux auditeurs que vous avez déjà enregistré une émission où vous nous aviez décrypté le voyage officiel du président Hu Jintao aux États-Unis et qu'ils peuvent également télécharger. Et vous nous donnez rendez-vous sur quel sujet la prochaine fois ? Est-ce que vous voudriez revenir sur justement la gestion de la catastrophe, des catastrophes, au Japon, vu qu'il y a cette connaissance particulière, me disiez-vous tout à l'heure en antenne, du peuple de la rue du tremblement de terre.
La population chinoise a été émue profondément parce qu'ils ont le sentiment sur leur propre terre d'avoir. Ils connaissent sans arrêt des catastrophes. Et l'attitude devant la catastrophe, ils ont été très sensibles à la manière dont les Japonais se comportent, dont le gouvernement japonais se comporte. La responsabilité, l'entraide entre les gens, l'organisation, ils rendent hommage. Ça contraste, je trouve, avec la relative froideur du gouvernement chinois qui a à sa porte, au fond, la démonstration d'un gouvernement qui n'est pourtant pas idéal. Le gouvernement japonais a
lui aussi,
ses
il y a
limites,
des problèmes de corruption.
Mais la question est intéressante parce que, mais il y a vraiment un sentiment de fraternité entre du chinois de la rue pour le japonais de Sendai.
Alors, de toute façon, on va se donner rendez-vous. On verra sur quel sujet. À très bientôt et merci pour votre éclairage, Marianne Bastide-Bruguière.
À bientôt.